Chapitre 3. La lecture dura près d'une heure. Tyrone lisait lentement et peut-être reprenait-il certains passages. Pendant ce temps, depuis l'arrêt survenu lors de la confiscation du deuxième feuillet, Stravogreen était demeuré immobile et silencieux, dans un coin du divan, appuyé sur le dossier et semblant figé dans l'attente. Tyrone ôta ses lunettes, resta pensif quelques moments, puis fixa de son regard hésitant Stavrogin. Celui-ci tressaillit et d'un mouvement brusque se pencha en avant. « J'ai oublié de vous avertir, dit-il d'un ton bref, que toutes vos paroles seront vaines. Je ne changerai pas mes intentions, ne cherchez pas à me dissuader, je publie tout. » Il rougit et se tut. « Mais vous n'avez pas oublié de m'en avertir tout à l'heure déjà, avant la lecture. » Une sorte d'irritation se trahissait dans les paroles de Tyrone. De toute évidence, le document avait produit sur lui une forte impression. Son sentiment chrétien était offensé, et il n'était pas toujours maître de ses sentiments. Je noterai à cette occasion que ce n'est pas sans raison qu'il avait acquis la renommée d'un homme incapable d'observer une conduite devant le public, comme on disait de lui au monastère. Malgré son humilité chrétienne, une réelle indignation altéra sa voix. « N'importe, reprit Stravogin avec la même brusquerie et sans remarquer le changement de ton de Tyrone. Quelle que puisse être la force de vos arguments, je me tiendrai à ma résolution. » Notez que par cette phrase malhabile ou trop habile, pensez ce que vous voudrez, je ne quête nullement vos objections ou votre éloquence persuasive, conclut-il avec un sourire contrefait. Oh, je n'aurais pas pu chercher à vous persuader du contraire. Votre pensée est une haute pensée, et la pensée chrétienne ne saurait s'exprimer avec plus de plénitude. On ne saurait accomplir un exploit plus exceptionnel, un supplice de soi-même comme celui que vous avez projeté, si seulement. Si quoi ? S'il s'agissait réellement de repentir d'une pensée vraiment chrétienne. De finasserie ! Murmura Stravogin d'un air distrait. Il se leva et arpenta la chambre sans paraître se rendre compte de ce qu'il faisait. Vous sembliez vouloir passer pour plus grossier que ne le souhaite votre cœur, reprit Tyrone, cherchant à révéler sa pensée entière. Possible, je ne voulais passer pour rien du tout. Je ne faisais pas de grimaces. Plus grossier, dites-vous, mais qu'entendez-vous par là ? Demanda-t-il en rougissant et s'irritant aussitôt de sa rougeur. Je sais que c'est là un acte misérable, bah ! Ajouta-t-il en montrant de la tête les feuillets, mais que sa bassesse même serve. Il s'interrompit, comme éprouvant de la honte de continuer à s'expliquer. Une expression de souffrance crispa en même temps son visage, parce que, poussé par une sorte de nécessité inconsciente de rester précisément pour s'expliquer. Il était remarqué aussi que pas un mot ne fut prononcé des deux côtés pour élucider la raison de la confiscation du deuxième billet, et cela durant tout le cours ultérieur de la conversation. Stavrogin s'arrêta devant le bureau, et y prenant un crucifix en ivoire, il se mit à le tourner entre ses doigts, et soudain le cassa en deux. Reprenant ses esprits et étonné lui-même, il regarda avec perplexité Tyrone. Sa lèvre supérieure frissonna, comme s'il avait été offensé, allait lancer un défi. « Je vais espérer que vous me diriez réellement une chose raisonnable, c'était pour cela que j'étais venu, » fit-il à mi-voix, comme cherchant à se maîtriser. Il jeta les deux tronçons du crucifix sur la table. Tyrone baissa vivement les yeux et dit avec ardeur, « Ce document part directement de votre cœur, mortellement ulcéré. Est-ce ainsi que je dois le prendre ? Oui, c'est un besoin profond de pénitence, un besoin intérieur qui s'est emparé de vous. Vous avez été profondément remué jusqu'à en faire une question de vie ou de mort par les souffrances d'un être que vous aviez offensé. J'en conclus que l'espoir ne vous a pas encore abandonné et que vous suivez maintenant la grande voie du supplice en révélant au monde entier votre honte. Vous demandez le jugement de l'Église tout entière, bien que vous ne croyiez pas en l'Église. Est-ce ainsi que je dois le comprendre? Mais il semble que vous haïssez et méprisez d'avance tous ceux qui liront cette narration et vous leur jetez un défi. Moi, je jette un défi. Oui, n'ayant pas eu honte de vous confesser du crime, pourquoi avez-vous honte du repentir? Moi, j'ai honte. Ah oui, honte et peur. J'ai peur? Stavrogin sourit et sa lèvre supérieure frissonna. Tyrone reprit. Vous semblez vouloir dire que les autres me regardent, mais vous-même, comment les regarderez-vous? Vous vous attendez à leur colère pour leur répondre par une colère plus grande encore. Certains passages de votre écrit sont d'un style trop appuyé. Vous semblez admirer votre psychologie et vous profitez du plus petit détail pour étonner le lecteur par votre insensibilité, par votre effronterie, qui peut-être vous sont étrangères. En même temps, vos passions mauvaises et votre habitude de l'oisiveté vous rendent effectivement insensible et sot. Mais la sottise n'est pas un vice, fit Stravroguine en pâlissant. C'est parfois un vice, reprit Tyrone, implacable et ardent. Mortellement ulcéré et martyrisé par la vision se tenant sur votre seuil, vous semblez ne pas voir quel est votre crime en réalité. Et de quoi vous avez à avoir honte devant les hommes dont vous appelez le jugement? Est-ce de l'insensibilité dans votre violence ou de la lâcheté que vous avez manifestée? Au cours d'un passage, vous vous empressez même d'assurer le lecteur que le geste menaçant de la jouvencelle ne vous semblait plus grotesque mais écrasant. Ce geste vous parut-il réellement grotesque, ne fût-ce qu'à l'instant? Oui, je l'atteste. Tyrone se tut. Il parlait comme un homme qui ne cherche plus à se contenir. Parlez, parlez, le pressa Stravogine. Vous êtes irrité, vous me malmenez. J'aime cela de la part d'un moine. Mais laissez-moi vous demander. Voici 10 minutes déjà que nous parlons après cela. Il désigna de la tête les feuillets. Eh bien que vous soyez indigné, je m'aperçois chez vous d'une expression de dégoût ni de honte. Vous ne semblez pas dégoûté et vous me parlez comme à votre égal. Il ajouta le mot comme à votre égal en baissant la voix et presque malgré lui. Tyrone le regarda attentivement et continua. Vous m'étonnez, car vos paroles sont sincères et dans ce cas, la faute est à moi. Sachez donc que je me suis montré discourtois et dégoûté à votre égard, tandis que vous, dans votre soif du châtiment, vous ne l'avez même pas remarqué, bien que vous ayez remarqué mon impatience et l'ayez appelée gronderie. En réalité, vous êtes convaincu d'avoir mérité un mépris bien plus grand, et votre parole, vous me parlez comme à votre égal, est une belle parole, bien que dites malgré vous. Je ne vous céderai rien. Je suis terrifié de votre grande force dépensée à dessein à des infamies. Ce n'est pas sans effet funeste qu'on devient étranger à son pays. On en est châtié par l'ennui et l'oisiveté, alors même qu'on a le désir de l'action. Mais le christianisme reconnaît la responsabilité dans toute situation. Dieu ne vous a pas privé d'intelligence. Dès lors, réfléchissez, si vous pouvez poser mentalement la question, suis-je ou non responsable de mes œuvres? Vous êtes sans le moindre doute responsable. Les tentations ne peuvent ne pas s'insinuer dans le monde, mais malheur à celui par qui les tentations viennent dans le monde. Quant à votre faute, Bien d'autres pêchent comme vous, mais vivent avec leur conscience en paix et considèrent même comme inévitable leur faute de jeunesse. Il y en a aussi les vieillards qui sentent déjà l'odeur de la tombe et qui commettent les mêmes péchés avec insouciance et enjouement. Le monde est rempli de toutes ces horreurs. Vous, du moins, vous en avez mesuré toute la profondeur, ce qui arrive fort rarement à un pareil degré. Serait-ce de l'estime que vous éprouveriez pour moi après la lecture de ces feuillets? Demanda Stavrogin avec un ricanement. J'ai entendu dire, très honorable père Tyrone, que vous n'étiez pas fait pour servir de guide de conscience, ajouta-t-il en accentuant sa grimace. On vous critique fort ici. On prétend qu'aussitôt que vous découvrez un sentiment sincère d'humilité chez un pécheur, vous vous enthousiasmez, vous vous repentez, vous vous humiliez devant lui. Je n'y répondrai pas directement. Il est exact, je ne sais pas observer une conduite pondérée envers les gens. J'ai toujours convenu de ce grand défaut, dit Tyrone avec un soupir et d'un ton si sincère que Stravogin le regarda avec un sourire de sympathie. Quant à ceci, reprit-il en jetant un regard sur les feuillets imprimés, il ne peut y avoir de plus grand, de plus affreux crime que celui que vous avez commis envers la jouvencelle. Ne mesurons pas ces choses au maître, fit Stravogin avec quelque dépit. Oui, peut-être ma souffrance n'est-elle pas aussi violente que je l'ai dépeinte, et peut-être bien me suis-je calomnié, conclut-il brusquement. Tyrone ne répliqua pas. Stavrogin arpentait la chambre, la tête baissée et absorbée dans ses pensées. Et cette jeune fille, demanda tout à coup Tyrone, celle avec laquelle vous avez rompu les relations commencées en Suisse, où se trouve-t-elle à cette heure? Ici. Un nouveau silence. Oui, je vous ai peut-être bien menti sur mon compte, répéta avec insistance Stravrogin. Est-ce vrai que je provoque les gens par l'impudence de ma confession, puisque vous y avez aperçu la provocation? C'est ce qu'il faut, il le mérite. Vous voulez dire qu'il vous sera plus facile de les haïr que d'accepter leur pitié? Parfaitement. Je n'ai pas l'habitude de la franchise. Mais puisque j'ai commencé à être franc, avec vous, sachez que je les méprise tous autant que moi-même, sinon plus, infiniment plus. Aucun d'eux ne saurait s'improviser mon juge. J'ai écrit ces fadaises, il désigna les feuillets, parce que cela m'a passé par la tête, par effronterie. Il se peut aussi que j'ai exagéré dans un moment d'exaltation, s'écria-t-il tout irrité. Et il rougit de nouveau, fâché d'avoir laissé échapper ses paroles malgré lui. Il s'approcha de la table et saisit un fragment du crucifix brisé. Répondez-moi à une question, mais en toute sincérité, à moi seul, ou parlant à vous-même dans le calme et dans les ténèbres de la nuit, dit Tyrone d'une voix pénétrante. Si quelqu'un vous pardonnait cela, il désigna les feuillets, non pas l'un de ceux que vous estimez ou que vous craignez, mais un inconnu, un homme que vous ne connaîtriez jamais, et qui vous pardonnerait en sa conscience, après avoir lu votre terrible confession. Vous sentiriez-vous apaisé par cette pensée, ou cela vous serait-il indifférent? Cela m'apaiserait, répondit Stavrokin, la voix basse. Et si vous me pardonniez, cela me soulagerait bien plus, ajouta-t-il vivement. À condition que vous me pardonniez aussi, fit Tyrone d'un ton pénétré. Pourquoi donc? Ah oui, c'est votre formule monastique. Détestable humilité. Permettez-moi de vous dire que ces vieilles formules de moine ne sont nullement élégantes. D'ailleurs, je ne sais vraiment pas pourquoi je suis ici, ajouta-t-il soudain en regardant autour de lui. Mais à propos, j'ai cassé chez vous. Qu'est-ce qu'elle vaut, cette affaire? 25 roubles? Ne vous en souciez pas. 50 peut-être. Pourquoi ne m'en soucierais-je pas? Pourquoi casserais-je et vous me feriez cadeau du dommage? Voici 50 roubles, dit-il en posant le billet de banque sur la table. Si vous ne les voulez pas pour vous, prenez-les pour les pauvres, pour l'église. Que sais-je? Ajouta-t-il avec irritation. Écoutez, je vais vous dire toute la vérité. Je désire votre pardon. Avec le vôtre, celui d'un autre, d'un troisième, mais celui de tous, non, 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 que tous me haïssent. Et la pitié de tous, vous n'auriez pas pu la supporter en toute humilité? Je n'aurais pas pu. Je ne veux pas de pitié de tout le monde. D'ailleurs, il ne peut pas y en avoir. Écoutez, je ne veux plus attendre, je veux publier. Ne me flattez pas, je ne peux plus attendre. Je ne peux plus! S'écria-t-il exaspéré. J'ai peur pour vous. Vous êtes devant un abîme presque infranchissable, fit timidement Tyran. Vous craignez de me voir succomber sous leur haine? Pas seulement sous la haine. Quoi encore? Mais sous leur rire, dit Tyran avec effort. Stravogin se troubla. L'anxiété se peignit sur son visage. Je le pressentais, dit-il. Oh, je vous ai donc paru fort comique après la lecture de mon document. Bon, ne vous tourmentez pas, soyez pas si confus, je m'y attendais. Tyrone était confus, en effet, et il s'empressa de s'expliquer. De pareilles et hautes actions exigent du sang-froid. Dans la souffrance même, on doit conserver une pleine sérénité, mais elle manque partout de nos jours. Partout, ce ne sont que disputes. Les hommes ne se comprennent pas, comme au temps de la tour de Babel. Tout cela est bien vieux, cela a été dit 1000 fois, interrompit Stravogine. D'ailleurs, vous n'atteindrez pas le but, reprit Tyrone, passant cette fois à la question. Juridiquement, vous êtes presque inattaquable. Et on vous le fera tout d'abord remarquer avec raillerie. On s'étonnera ensuite. Qui comprendra le véritable motif de votre confession? On ne voudra pas le comprendre, car on s'effare devant de pareils exploits et on s'en venge. Le monde aime sa boue et ne veut pas qu'on l'agite. C'est pourquoi on tournera votre acte en ridicule, parce que c'est par le ridicule qu'on peut tuer le plus vite. Parlez, dites tout, encouragea Stravogine. Oh, sans doute, on s'exprimera de l'horreur, tout d'abord, mais une fausse horreur, afin d'observer les apparences. Oh, je ne parle pas des âmes pures. Celles-ci ressentiront l'horreur et s'accuseront elles-mêmes, mais on ne les entendra pas, car elles garderont le silence. Les autres hommes, les gens du monde, craignent uniquement ce qui menace leurs intérêts personnels. Ceux-ci, la première surprise, l'effroi factice passé, s'empresseront d'en rire. On manifestera de la curiosité pour le fou, car on vous prendra pour un fou. Peut-être pas entièrement, mais on vous jugera suffisamment responsable pour qu'on puisse rire de vous. Pourriez-vous le supporter? Votre cœur ne s'emplira-t-il pas d'une telle haine qu'elle vous conduira à votre perte? Voilà ce que je crains. Et ce qui m'étonne, c'est de vous voir si mal juger les hommes, professer un tel mépris pour eux, fit Stravroguine d'un ton agacé. Croyez-moi, en parlant ainsi des hommes, c'est d'après moi que je les jugeais plus tôt, s'écria Tyrone. Y aurait-il donc dans votre âme aussi un motif de se réjouir de mon malheur? Oh, qui sait? Peut-être bien il y en aurait, tire-t-il. Oh, il se peut bien. Indiquez-moi alors ce qu'il y a de ridicule dans mon récit. Oh, je sais bien quoi, mais je tiens à vous voir le désigner du doigt. Et faites-le aussi cyniquement que possible, avec toute la sincérité dont vous êtes capable. Puis laissez-moi vous dire, Vous êtes la femme originale. Mais la forme même de votre ardente pénitence revêt un caractère ridicule. Mais ne doutez pas de votre triomphe, s'écria soudain le moine avec enthousiasme. Même sous cette forme, vous vaincrez si vous acceptez en toute sincérité les soufflets et les crachats. La mise en croix la plus honteuse s'achève toujours en grande gloire et en grande puissance lorsque l'humilité montrée dans l'exploit est sincère. Et il se peut qu'ici-bas encore vous soyez consolé. Bref, vous découvrez le ridicule dans la forme seule, insista Straugin. Et dans le fond, c'est la laideur qui tuera, murmura Tyrone en baissant les yeux. La laideur, quelle laideur? Du crime. Il est des crimes qui sont réellement laids. Quel que soit le crime, plus il y a de sang d'horreur, plus il impose, devient pittoresque, pour ainsi dire, mais il est des crimes honteux, vils, qui sont en dehors de toute terreur, trop inélégants, si l'on peut dire. Tyrone n'acheva pas. C'est-à-dire, fit avec émotion Stravogin, vous jugez fort ridicule le geste de baiser les mains d'un petit souillon? Oh, je vous comprends que trop. Et vous vous désolez pour moi parce que c'est laid, vil, non pas vil, mais honteux, ridicule, et vous pensez que c'est cela précisément que je ne pourrais souffrir. Tyrone se taisait. Je comprends maintenant pourquoi vous avez demandé si mademoiselle de Suisse se trouvait ici. Mais vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas assez retrempé, vous êtes déraciné, vous n'avez pas la foi, murmura Tyrone timidement. Écoutez, mon père, je veux me pardonner moi-même. Voilà mon vrai but, tout mon but, s'écria soudainement Stravogin avec une extase farouche. C'est alors seulement que le spectre disparaîtra. Voilà pourquoi je cherche la souffrance infinie. Ne m'effrayez donc pas, sinon je me noierai dans ma rage. Cette explosion de sincérité fut si inattendue que Tyrone se leva. Si vous avez foi que vous pouvez vous pardonner vous-même et obtenir ce pardon par la souffrance, si vous vous posez un tel but avec foi, alors vous êtes déjà un croyant, s'écria Tyrone avec émotion. Mais comment donc avez-vous pu dire que vous ne croyez pas en Dieu? Stavrogin ne répondit pas. Dieu vous pardonnera votre incroyance, car vous honorez le Saint-Esprit sans le connaître. Le Christ pardonnera à l'occasion? Demanda Stavrogin avec un sourire contraint et une nuance d'ironie dans la voix. Mais n'est-il pas dit dans le livre, si vous séduisez l'un de ces petits, vous souvenez-vous? Selon l'Évangile, il n'y a pas de plus grand crime. Dites plus simplement que vous voudriez éviter un scandale, et vous me tendez un piège, mon bon père Tyran, fit avec dépit Stravogin en faisant mine de se lever. En somme, vous voudriez me voir assagi, peut-être même marié, convenablement, et achevant ma vie en honnête membre du club de la ville, et en fidèle de votre monastère, le fréquentant à toutes les fêtes. Belle pénitence, en vérité. Au reste, en bon connaisseur du cœur humain, vous pressentez sans doute que la chose finira en effet ainsi, et tout notre colloque se réduit à me persuader que c'est précisément ce que j'attendais de vous, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas cette pénitence que je veux. Je vous en prépare une autre, reprit Tyrone avec ardeur, sans prendre garde au ricanement de Stravogin. Je connais un vieil ermite, un ascète, qui vit non loin d'ici dans l'isolement complet, et qui est d'une telle sagesse chrétienne que ni moi ni vous ne saurions le concevoir. Il condescendra à ma prière. Je lui raconterai tout ce qui vous concerne. Allez faire votre pénitence auprès de lui. Soumettez-vous à sa direction pendant 5 ou 6 ans, aussi longtemps que vous jugerez vous-même nécessaire par la suite. Imposez-vous un vœu, et par ce grand sacrifice, vous obtiendrez tout ce dont vous avez soif, même ce que vous n'espérez pas, car vous ne saurez pas comprendre aujourd'hui ce que vous recevrez. Stavrogin écouta d'un air grave. « Vous m'engagez à entrer dans l'autre monastère, prononcer les vœux de moine ?»« Non, vous n'avez pas à prendre l'habit de moine. Faites-vous seulement novice, fût-ce en secret. Vous pouvez continuer à vivre dans le monde. »« Laissez donc, père Tiron, l'interrompit Stravogin, et il se leva. Tiron aussi. « Mais qu'avez-vous ? » s'écria Stravogin en regardant avec frayeur l'évêque. L'autre demeurait debout devant lui, les mains jointes, le visage convulsé d'une frayeur soudaine. « Qu'avez-vous, mais qu'avez-vous ? » répéta Stravogin en s'approchant vivement de lui pour le soutenir. Il lui sembla qu'il allait tomber. « Mais je vois, comme si c'était réel !» s'écria Tyrone avec une expression de profond chagrin. « Que jamais, pauvre jeune homme perdu, vous n'étiez aussi proche d'un nouveau et plus grand crime qu'en cet instant. »« Calmez-vous, » dit Stravogin, de plus en plus inquiet pour Tyrone. « Je remettrai peut-être. Vous aviez raison. »«
Non, ce n'est pas après la publication. » C'est un jour avant, 1 heure peut-être avant le grand acte, que vous chercherez une issue dans un nouveau crime, et vous le commettrez uniquement pour éviter la publication de vos feuillets.
Stavrogin trembla de colère et de frayeur en même temps. « Maudit psychologue ! » s'écria-t-il au paroxysme de la colère. Et il sortit de la cellule, sans se retourner une seule fois.